France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Philosophe et écrivaine, Catherine Clément est folle d'histoire. Elle l'est dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisqu'il s'agit d'un immense voyage en Inde, au pays d'Ogon, en Autriche, avec Sissi, ou en Grèce, avec la Pythie. Et puisque païenne, c'est un voyage en mythologie, en polythéisme et en monothéisme. Et pourquoi pas un voyage sur les bords de la Loire, au Toureil, entre Angers et Saumur.
La rive gauche de la Loire est à la mode. Si vous roulez de Saumur à Angers, vous aurez envie de vous arrêter souvent. Après Gênes et son clocher qui grimpe, vous ferez ici l'étape de votre promenade ou de vos vacances. Le Toureil, autrefois un port si actif, aujourd'hui paisible et rieuse localité. Comme ses maisons, son église est blanche, d'origine romane, coiffée d'un clocher-mur qui servait de fanal. La petite cité a une histoire très vivante. Elle faisait le commerce florissant des ardoises, des tuffeaux, des pommes et des vins de pays, avec des Hollandais en particulier qui ont construit les habitations toujours visibles. Le port sur la Loire n'est qu'un souvenir. Mais le Toureil possède un magnifique plan d'eau, le plus vaste du fleuve dans notre région. 400 mètres de largeur, 1500 mètres de long. Absence totale de bancs de sable.
Le Toureil a présenté dans les actualités en 1965. Bonjour Catherine Clément.
Bonjour.
Pourquoi commencer une émission sur les bords de la Loire alors que cela vous concerne et qu'avec vous nous partons à travers le monde, en Inde bien sûr, mais pas seulement en Inde. Pourquoi les bords de la Loire?
J'y ai passé toute la guerre, j'y suis arrivé à 3 semaines, à l'âge de 3 semaines. Et j'en suis reparti en 1944 pour recevoir les bombes des Alliés à la libération de Paris. Et oui, c'est un port d'attache pour toute la famille. D'ailleurs, on est une grande famille à l'africaine. Les maisons sont d'ailleurs faites comme une concession africaine, comme le long d'une cour carrée. Et il faut ajouter quelque chose sur les Hollandais en question, qui faisaient le commerce de tas de trucs. Ils commerçaient aussi les esclaves.
C'est-à-dire que cette histoire de l'esclavage, nous la retrouvons entre Angers et Saumur.
C'est une archiviste départementale qui est venue nous voir en disant « Vous avez une très belle maison, elle a été construite par des négriers. » Des Hollandais négriers. Ces Hollandais qui étaient catholiques, qui avaient été pourchassés en Hollande par des protestants et qui s'étaient réfugiés dans un bled bien catholique qui était le Toureil. Hein. Et les guerres de religion étaient... Ce qui me frappe surtout dans cette Loire si calme et si paisible, et là, en effet, devant ma fenêtre, elle fait 400 mètres, c'est qu'elle... Il y a encore le sang des guerres de religion qui coule. Le nombre de guerres de religion qui se sont passées là, c'est incroyable.
Ah oui. Parce qu'au Toureil, c'est vraiment étonnant. Hein. On pourrait entendre la cité riante présentée dans les actualités. Mais vous, Catherine Clément, et on le voit, et c'est pas seulement parce que vous êtes dans une émission d'histoire aujourd'hui sur France Culture, c'est qu'il y a ce réflexe de regarder vers le passé. Avec le Toureil, tout de suite, nous nous trouvons avec l'histoire des guerres de religion. C'est du sang, c'est de la violence. Avec l'histoire de l'esclavage,
ensuite,
c'est du sang, c'est de la violence.
Les Chouans sont partis de là. Hein. Donc, ça n'a pas arrêté.
Et ces bombardements dont vous vous souvenez aussi. Hein.
Je ne me souviens pas des Chouans.
Non, pas des Chouans, mais des bombardements.
Les bombardements de juin 40, et comment je m'en souviens. Le Toureil était le dernier sur la ligne de défense de l'armée française. Le tout dernier. Donc il y avait des mitraillettes que je n'ai pas vues. J'avais quand même 2 mois, donc j'en ai pas le souvenir. Mais j'ai le souvenir, en juin 40, j'avais presque un an, j'ai le souvenir des bombes et des obus qui tombaient sur le bois où on était caché, c'est une façon de parler. Et c'est quelque chose d'insupportable qui fragmente la vie jusqu'à la vieillesse. Mmh. En petit tas, comme ça. C'est fragmentatoire, ce truc-là. C'est terrible, les bombardements. C'est ce qu'il y a de pire dans la guerre.
Il y a ici la question de l'histoire même et de l'histoire vécue, presque de la recomposition, au sens où Catherine Clément, vous venez de nous le dire, hein, vous êtes née en 1939, en 1940, vous aviez donc un an, et il y a la reconstruction mémoriale. Ça fait réfléchir aussi à ce qu'est l'histoire, hein, comment cette histoire, on se la crée aussi parce qu'on en a besoin.
Alors vous parlez d'or, parce que quand j'ai toujours eu le souvenir que c'est l'effondrement des ponts, car le Toureil est bloqué à 5 km d'un côté, à gauche et à droite, par des beaux grands ponts, les ponts suspendus en ferraille, magnifiques. Ils ont été écroulés tous les deux, et j'ai toujours pensé, dans mon souvenir, c'était de nuit avec tout ce qu'il y a de flammes et les photos sont de jour.
Ouais, c'est étonnant.
Ça, c'est vraiment notre investissement de base.
C'est vrai que je fais rarement ça, Catherine Clément, mais il faut que je vous dise, ma maman est aussi née en 1939 et son plus ancien souvenir, c'est de traverser la Loire sur un pont de fortune après que le pont ait été détruit par les bombardements. Vous avez cela en commun avec ma maman, ce souvenir des ponts détruits sur la Loire.
Ils y sont restés très longtemps, les ponts. Ils y sont restés jusqu'à il y a 20 ans seulement qu'on les a retirés de la Loire.
Ah oui.
Donc ils ont moisi là-dedans, enfin, moisi. Se sont corrompus là-dedans, très très longtemps. Oui, c'est peuplé d'histoire. C'est le fleuve le plus historique possible. Il en est rempli à chaque endroit.
Mais comme vous êtes un fleuve peuplé d'histoire aussi. L'histoire, elle est là, elle est très présente dans ce que vous racontez dans vos ouvrages. Et on pourrait les citer les uns après les autres, que ce soit l'Allemand de ma mère, le dernier, Païenne, bien sûr. Dans ces histoires-là, cette volonté d'explorer le passé pour comprendre le présent, bien sûr, on voit que les fils sont reliés partout. Une histoire très locale, on évoquait le Toureil, on se trouve, donc on le disait, entre Angers et Saumur, et puis tout de suite on part au bout du monde, parce qu'il y a l'esclavage, parce que il y a la guerre, et la guerre on vient de loin. L'Allemand de ma mère, cet ouvrage que vous avez publié au Seuil, ça raconte ce moment d'ailleurs très intéressant de ce qui se passe là, avec cet Allemand venu de loin, il vient d'Allemagne, et qui se trouve ici.
Et se présentant comme un juif émigré.
C'est vrai.
Et se présentant comme un juif émigré à ma mère qui était une jeune pharmacienne, et pharmacien, était diplômé de pharmacie, et comme elle était apitoyée, elle lui a fait sa patientèle, et puis il est ressorti en septembre 40, en grand uniforme de la Wehrmacht.
C'est un espion, on peut dire.
Ça s'appelait la cinquième colonne, personne n'y croyait, mais lui en était. Oui, c'était un espion. Enfin, plus qu'un espion. Il préparait l'hôtel Lutetia à l'occupation allemande.
D'accord, c'est-à-dire que les Allemands avaient envoyé, sous couvert d'être juifs réfugiés,
un médecin,
des gens de la cinquième colonne.
Un médecin, qui un de ceux qui ont préparé l'occupation allemande. C'est vrai que l'installation des armées allemandes à Paris, ça a été fait très très vite. Mais bien sûr, ça a été préparé pendant tout un drôle de guerre.
Et pourquoi ce titre à cet ouvrage, L'Allemand de ma mère? Parce qu'il y a une relation très particulière qui s'instaure.
Parce que c'est quand même inouï, hein. Parce qu'il y avait le maître espion de Hitler, il s'appelait Canaris, l'amiral Canaris. L'amiral Canaris s'était donné une mission à lui-même de sauver le maximum de juifs dans Paris. Donc, cet Allemand, qui n'était pas un juif immigré, qui s'est présenté comme un juif immigré et qui était un espion, a aidé ma mère à se cacher. Il l'a prévenu une dizaine de fois, ce soir vous ne dormez pas chez vous. Ce soir vous ne dormez pas chez vous. Ils avaient mis au point tout un système de communication. Et ça a fonctionné. C'est lui qui lui a prévenu. Enfin, il a beaucoup guidé.
À ce moment-là, votre maman était
donc
pharmacienne.
Donc c'était injuste.
Hein. Oui, c'était injuste, oui, c'est vrai. Dans cette lecture très particulière de ce moment terrible, et on le voit bien, être plongé avec l'incertitude du futur. Nous connaissons la suite, mais à ce moment-là, on ne connaît pas la suite. C'est cet univers-là qui est repris parfois de manière autobiographique, par exemple dans le film Le cinéma de papa de Claude Berry.
Comment il est venu le premier homme au monde? Qu'est-ce qu'il y avait au début? Je me demande. Jamais on saura. On est là. C'est le principal. Ton père, il peut encore, tu crois? J'en sais rien. Jusqu'à quel âge on peut, tu crois?
J'en sais rien.
Et tes parents?
Un soir, je me suis levée.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en sais rien. Pharmacien, peut-être. Pourquoi? Mon père dit que c'est un bon métier. On travaille toute l'année. Il dit qu'il n'y a pas de mort de saison. Et toi?
J'en sais rien. En tout cas, je veux pas être foireur comme mon père. Au salut, il faut que je me tire. Ma mère a peut-être accouché aujourd'hui.
Dans le film Le cinéma de papa de Claude Berry en 1971, on l'entend. Le père est foureur. Le fils veut peut-être être pharmacien. Catherine Clément, c'est un écho à votre existence, ça?
Bon, on était quelques-uns quand même, avoir un grand-père fourreur et un papa pharmacien.
Oh, quand même, pas tant que ça. Non, votre grand-père était fourreur, oui.
Oui, non seulement il était fourreur, mais il était président du syndicat des fourreurs.
À Paris.
À Paris.
Et votre père est pharmacien.
Non, ma mère et mon père étaient pharmaciens, voilà, tous les deux.
Tous les deux. Dans cette histoire-là, il y a votre parcours intellectuel, Catherine Clément. Ce parcours intellectuel, aujourd'hui, nous conduit jusqu'à Païenne, que vous publiez au Seuil, avec La Pitié, avec le 4e siècle après Jésus-Christ. Et là, nous parlons de la guerre, le Toureil, Paris. Mais il y a quand même des liens. À quel moment la mythologie apparaît dans cette histoire ?
Dans mon histoire ?
La vôtre.
Sous les bombes. Il y a quand même eu quelques bombardements pendant l'occupation allemande. Et ça fait très peur, les bombardements. Moi, j'ai réagi à la peur, comme pas mal de mes petits camarades de l'époque. J'ai réagi à la peur en apprenant à lire toute seule. Et j'ai appris à lire dans un énorme livre de mythologie, très intéressant parce qu'il y avait des illustrations et que les dieux et les déesses étaient tout nus. Donc c'était extrêmement bien. C'est un énorme bouquin, je pouvais à peine le porter. Et donc j'ai su lire à 4-5 ans, je savais lire. Et beaucoup de mes contemporains ont connu cette expérience, que la peur active d'un seul coup fabrique une espèce de protection mentale. Et la lecture, c'est ça.
Et la mythologie vous permet d'aller loin aussi, d'échapper à la réalité du moment.
C'était surtout la mythologie, on est tout nu. Et c'est vivre nu qui me paraissait enviable.
Vivre nu, justement.
Qu'est-ce que tu fais tout nu ici ?
Rien.
Il y a quelqu'un avec toi ?
Non. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer ?
Ça, c'est quoi ?
Une génisse. Elle est venue se coucher à côté de moi. Elle a dû s'égarer d'un troupeau.
Il n'y a pas de troupeau dans les environs. Elle est très belle. Je vais la prendre avec moi. Je la confierai à Argus. Si elle est fugueuse avec lui, elle ne va pas s'échapper.
Fais comme tu veux.
Le film Métamorphose de Christophe Honoré en 2014, avec des gens tout nus. Là aussi, cette évocation.
Et pour lequel j'ai fait un bonus.
C'est vrai ?
Oui.
Ah oui ?
À la demande de Christophe Honoré.
Vous y racontiez quoi ? Parce que ces Métamorphoses, c'est vraiment une lecture très particulière et absolument magique.
J'essayais de sortir de Ovid, que le journaliste chargé de la chose me balançait. Je ne voulais pas du tout parler d'Ovid. Je voulais restituer ce que Christophe Honoré avait fait comme travail sur la mythologie. Ouais. C'est en gros le mélange homme-animal. C'est ça qui frappe le plus quand même. Donc c'est d'abord Zeus, parce que lui a une capacité formidable à se transformer en... Il n'est jamais totalement dieu, il n'est jamais totalement homme. En cygne, moi je l'aime beaucoup. En cygne, ben oui, Léda est le cygne. Vous voyez la taille du cygne pour qu'il arrive à féconder Léa ?
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'est un cygne géant.
Ah, c'est merveilleux ça. C'est tout décuplé dans cet imaginaire que nous offre la mythologie. Mais Catherine Clément, je ne peux pas croire que la mythologie vous ait plu uniquement parce qu'il y avait à côté du texte des représentations de déesses et de dieux tout nus. Il y a autre chose aussi dans la mythologie qui vous a inspiré.
Oui, mais je ne le savais pas. Ça m'a façonné. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute, ces dieux-là existent. Et c'est comme ça que je me protège contre les monothéismes, que je trouve plus dangereux quand même.
Dans ce livre Païenne, il y a un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, on peut le dire. Hein. C'est le moment où l'on voit le paganisme disparaître et être remplacé par un monothéisme. Et c'est pas si simple que ça, je le dis en quelques mots, mais on sait bien que tout ça est un processus très long et très complexe. Pourquoi avoir choisi ce moment-là particulièrement ? Ça vous permettait d'ailleurs de voir ces deux aspects, le polythéisme et le monothéisme.
Je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait faire bascule autant que notre siècle à nous, ou que l'année quand j'ai commencé à écrire ce texte. Qu'est-ce qui dans l'Antiquité ou dans n'importe quelle période historique, a constitué une journée de rupture. Eh bien, c'est le dernier oracle de la Pythie, quand les Romains chassent la Pythie de Delphes, de l'oracle de Delphes. Et vous connaissez la date, on sait très bien où ça s'est passé.
Oui,
on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais on sait où ça s'est passé et à quelle date.
Delphes, 6 janvier 300. 92. Ça, ce sont les premiers mots de l'ouvrage.
Là, la pitié est encore là, quand même.
Voilà, la pitié est encore là quand l'ouvrage commence. C'est très intéressant, hein, cette manière que vous avez, Catherine Clément, de réfléchir aux religions, et cela de manière plurielle, parce que il y a ce regard à porter, comme la philosophe que vous êtes, sur le phénomène religieux. Il y a le regard de l'historienne, de l'historien sur ce même phénomène. Et puis, il y a quelque chose, et là, avec Payenne, nous sommes dans le roman, de l'écrivaine, c'est-à-dire la volonté de porter des mondes dont un est en train de disparaître. Et on le sent bien. Alors, je ne sais pas si ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le cas. Vivons-nous un monde qui est appelé à disparaître? Mais en tout cas, on voit que ce moment de bascule-là vous intéresse particulièrement.
Bah, ce qui m'a rapproché des dieux grecs, que j'avais un peu perdu de vue quand même, je n'ai pas passé toute ma vie à côté d'eux, mais j'ai été en Inde, forcé d'y aller, par une mission au Quai d'Orsay, et forcé d'y aller tous les 3 mois, et puis ensuite forcé d'y habiter. Et là, vous recevez 30 millions de dieux dans la gueule.
Ah oui ?
Ah bah oui. Et si vous n'arrivez pas à comprendre que le petit triangle orange, là, au pied de l'arbre, c'est un temple. Si vous n'arrivez pas à savoir qui représente une figure avec un trident, si vous ne savez pas qui possède le trident, c'est dangereux. C'est Shiva, le dieu du trident. Et donc, ils sont là. On est immergé. On peut choisir de s'en foutre complètement, mais on passe à côté du meilleur de l'âne, quand même.
Comment vous avez procédé, vous? Parce que c'est...
J'ai lu.
C'est par les textes?
J'ai lu des centaines de livres en anglais. Parce que c'est la littérature anglophone, bien entendu, qui est la meilleure pour l'Inde. Et très, très précise, très, très bien documentée. Quoique les Anglais ont aussi fabriqué des castes. Ils ont inventé une caste, notamment. La caste des criminels. Absolument formidable, ça. Hein, qui n'existe pas en vrai. Mais il y avait des gens dont ils ne savaient pas quoi faire, voilà. Et ça a donné la caste des criminels.
Ouais, c'était pratique. Hein,
bah... Ah, mais je me souviens avoir été accompagné à Bombay, à l'époque ça s'appelait Bombay, par quelqu'un qui disait fièrement, je suis très fier d'être de la caste des criminels. Ça fait quand même drôle, vous savez.
Bah oui, c'est une caste inventée avec tous ces dieux que vous avez pu découvrir à travers les livres. Catherine Clément, 30 000, dites-vous, c'est beaucoup. Alors, c'est pas 30 000...
Avec... 30 millions
Mais il n'y a pas autant de vénération, c'est pas possible.
Si.
Mais il y en a certains qui prennent le dessus, on va dire.
Il y en a des nouveaux qui arrivent.
Ah oui,
il y a maintenant une déesse Sida, et il y a naturellement un dieu Covid.
Ah oui, donc ces divinités.
À ceux-là, on les a vus naître.
Ce polythéisme-là, c'est un polythéisme très particulier, avec un regard à porter aussi sur le lien qu'il y a entre la politique et le contexte, et la religion. J'évoque Payenne, hein, on est au 4e siècle de notre ère, on sait bien ce qui se passe avec ce monde romain, le pouvoir impérial, et puis la religion qui est de plus en plus présente, les chrétiens. Mais en Inde, avec ce polythéisme et ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des liens à faire.
Oui. Enfin, ce que je retiens particulièrement de l'empereur Théodose, qui est le dernier empereur qui est à la fois de l'Orient et de l'Occident, ce que je retiens surtout de lui, c'est un jour où il n'était pas content parce qu'il y avait eu une bagarre à Thessalonique, il a rempli le cirque de spectateurs, hein, et quand le cirque a été rempli, 7000 places, il les a tous fait tuer par son armée. Donc c'était quand même pas détendre, c'est quand même un monde extraordinairement plus violent que le nôtre, mine de rien. Quand même, rassembler 7000 personnes dans un cirque et les faire tuer immédiatement, c'est quand même considérable. C'est pire que Trump-Néron, quand même. Hein.
Vous allez plus loin, vous dites c'est Théodose, hein, plutôt celui qu'il faut désigner du doigt.
C'est le dernier empereur unique, en tout cas. Et les difficultés sont considérables du point de vue religieux, puisque le concile de Nicée vient d'avoir lieu.
On est en 325 avec le concile de Nicée.
Voilà, 325, et là on est en 392. Et Théodose veut liquider les païens, physiquement et mentalement.
Il y a du sang dans cette histoire-là, dans Payenne, Catherine Clément. Mais d'ailleurs, le livre commence avec beaucoup de sang. Il y a du sang humain, il y a du sang animal. C'est intéressant de parler de la religion en avançant avec ce fluide qui constitue l'élément essentiel de nos existences.
Alors oui et non. Théodose a commencé par interdire les immolations animales. Bon, ça, en 390, je crois, l'année d'avant. Hein. Mais c'est pas tellement le sang qui compte. C'est l'utilisation qu'on en fait. On l'offre aux dieux déjà. Ça fait une odeur pour les dieux. Les dieux sont des grands renifleurs, hein. De grands renifleurs. Et ils se nourrissent de la fumée. Enfin, ils prennent plaisir à la fumée des sacrifices. En Inde, c'est pas tout à fait la même chose, parce que d'abord, les immolations sont interdites, sauf à Calcutta, où il y a des guillotines à chèvres. Absolument. Des toutes petites guillotines. Et que je tabasse des chèvres tous les matins, en l'honneur de la déesse Kali. Kali, la noire, c'est l'horrible, avec une langue tirée comme un joueur de rugby.
Oui.
Un collier de tête décapitée, une jupe avec des bras, c'est une jupe faite de bras, et qui est vénérée par le Bengale. Celle-là, elle veut du sang encore maintenant, et on le lui donne.
Alors qu'une chèvre, on en trouve aussi dans Païenne, parce que Gaïa, il faut l'honorer à Delphes avec le sacrifice d'une chèvre.
Oui, absolument. Mais
noire, pas n'importe laquelle.
Celle-là, c'est la noire, parce que c'est celle de ce qui est destiné à la déesse Terre. Elle doit être noire, sans un poil de blanc. Ça, les couleurs des animaux, c'est très rigolo. Ça me fait penser à la vache rousse, la vache rousse que cherchent les Hébreux et qui doit ne contenir aucun poil qui soit autre que roux. Et tout ça finit en cendre quand même. Hein. C'est tout à fait. Il y a le sang, il y a la chair qui se mange quand même. Hein, c'est quand même un bras zéro.
Avec cette évocation de ces sacrifices dans l'Antiquité grecque, où les dieux se nourrissent, comme vous le disiez,
de
uniquement
fumée.
De la fumée, c'est pratique, et pas la fumée de l'ensemble de la bête.
Non, uniquement les entrailles, enfin tout ce qu'on ne mange pas.
Pratique. Comme ça, les humains, eux, peuvent manger ce qu'ils
veulent. L'autre paquet,
oui.
Dans lequel il y a les gigots, il y a tout le reste.
Avec ce personnage hein, qui est au centre de l'ouvrage, c'est Lapithi. Lapithi est drôlement intéressante parce que ça fait partie de ces personnages auxquels se sont accolés tant et tant d'idées fausses, de légendes, de fantasmes. C'est encore un objet d'histoire pour essayer de comprendre Lapithi. Catherine Clément, comment est votre Lapithi à vous ?
Ben d'abord, elle est documentée, ma Lapithi. Il fut un temps où les Lapithi étaient des petites sauvageonnes analphabètes. Et puis, à mesure que le temps passait et que Delphes mûrissait, si on peut dire, elles sont devenues cultivées. Elles parlaient le latin et le grec. Et c'est le moment où elles ont commencé à avoir des numéros. Celle-là s'appelle Aglaé 4.
4.
Parce qu'il y a eu déjà 3 Aglaé. Donc, comme les empereurs, ou comme les papes.
Oui, ou comme les rois, etc. Oui, c'est vrai. Aglaé 4, avec ce personnage de Lapithi, qui est un personnage qui n'est pas seule. Et c'est vrai que Lapithi, nous la voyons en transe, seule. Non, elle est entourée. Il y a un prêtre, notamment Nikos, qui est à côté. Mais là, on est sur cette fin, on est sur le dernier oracle.
Mais
de Lapithi.
Toutes les Lapithi sont comme un borderline. Hein. Elles ne sont pas tout à fait normales. Elle part en transe sans prévenir, sans cri d'égard. Elle n'est pas du tout violente. Pas du tout violente. Ce sont des transes douces, mais c'est son métier après tout. Hein. Mais elle parle le latin et grec et elle a lu.
Oui, c'est ça, hein. C'est une personne cultivée, mais l'oracle de Lapithi n'est pas la verbalisation par Lapithi elle-même de ce que voudraient dire, je ne sais pas, les dieux ou n'importe
quoi. Ce sont des hurlements, ce sont des hurlements que j'ai appelés poliment des vocalises, mais c'est incompréhensible, c'est du chant. C'est du chant hurlé, forcément dans une transe. La mâchoire n'est pas contrôlée, donc en effet, ce sont des hurlements. Il faut, théoriquement, Lapithi doit sortir des hurlements en bon ordre. Enfin bon, c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous savez comment j'ai constitué mes hurlements? Parce qu'ils y sont les hurlements de Lapithi.
Ben oui, dites-moi.
J'ai étiré les arrières d'opéra.
C'est vrai?
Absolument. Vous prenez chacune des proférations de Lapithi, c'est un air d'opéra chaque fois étiré.
Mais à quel opéra?
Ah ben cherchez.
Ah mais c'est formidable, mais c'est un jeu en fait que vous nous offrez, parce que dans le texte on les voit de manière très distincte, parce que les lettres, c'est rare d'avoir un K, un E, 3 I, un N, un A, un R, un G, etc. etc. à la suite. D'accord, ce sont des opéras, bon ben je vais jouer à ça pour essayer de comprendre quels opéras ont été utilisés. Lapithi est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire.
Un crime a été commis à Delphes. Au pied même de cet autel. Les meurtriers n'ont pas été retrouvés. Les dieux ont donc rendu responsables de ce crime tous les habitants de Delphes. Et pour faire sentir à tous leur ressentiment, ils ont frappé la terre de stérilité et les Delphiens de maladies extraordinaires. J'ai donc interrogé l'oracle pour savoir de quelle manière calmer la colère des dieux. Et l'oracle m'a dit que l'or et les parures des femmes soient déposés au pied de l'autel, à même la terre, afin qu'ils boivent comme des bouches le sang qu'il a rendu stérile. Les dieux réclament que chaque homme et chaque femme vivant en Delphes se départissent de son bien le plus précieux afin que soit racheté le meurtre qui les souille. Que les héros d'armes se rendent sur les places publiques en Delphes et hors de Delphes et fassent appel à quiconque ayant de près connu la victime voudrait recevoir le tribut de son sang. C'est-à-dire que devenant ainsi possesseur de ce trésor, il nous délivre de la malédiction.
En 1965, l'ORTF adapte Ésope avec l'évocation de la Pythie de Delphes. Et ici, dans cette évocation, nous avons des dieux sévères. Ces dieux de l'Antiquité.
Oui, ça craint, là. Hein.
Ah, on est bien d'accord, Catherine Clément.
Ah oui, c'est monstrueux.
Mais ils sont pas comme ça, les vôtres. Comment les considérez-vous, ces dieux de l'Antiquité ?
Comme une grande famille. Comme une grande famille, mais les dieux indiens aussi. Par exemple, je voulais vous dire quelque chose qui concerne l'Inde. Vous savez que l'Inde n'est plus tout à fait une démocratie et qu'elle tourne à la théocratie. Que le premier ministre de l'Inde fait la chasse aux musulmans et aux chrétiens, qui sont les deux religions qu'il appelle invasives. Elles sont venues de l'extérieur. Bien. C'est comme ça qu'il a procédé, c'est comme ça que ce mouvement a procédé pour prendre le pouvoir. Il a commencé par faire un grand pèlerinage. Le mouvement en question, qui s'appelle le BJP, et qui est au pouvoir en ce moment, a commencé par ratatiner les 30 millions de dieux à un. Ils en ont choisi un, Rama. Ils ont tout axé sur Rama. Tout est devenu Ramaphile, Rama, enfin tout ce que vous voulez. Et ça a rétréci le champ divin et le champ des libertés de choix des Indiens. On peut choisir son dieu hein, quand on est en Inde. C'est très commode. Mais là, il y avait pas, ça fanatisait sur le 1. Et c'est comme ça qu'ils ont recruté une armée de yogis pour détruire à l'explosif une mosquée qui était quand même du 15e siècle. Donc, le fait d'avoir beaucoup de dieux, ça protège. C'est plus démocratique.
Ah, oui.
Et le fait de ratatiner à un seul dieu, c'est pas bon. Et pourquoi le christianisme a pris ça, on le voit quand même, j'essaye de l'expliquer dans ce roman, c'est parce qu'il y a une femme. Donc c'est pas tout à fait la Vierge Marie. Vous me regardez avec des yeux, mais si, la Vierge Marie, elle reste une femme, même si elle est vierge.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous expliquez ici que le christianisme prend réellement quand il n'est plus uniquement porté par des figures masculines, mais quand apparaît cette figure féminine avec la Vierge.
Et le pigeon. Enfin, celui que j'appelle le pigeon, le Saint-Esprit. Non, plus il y a d'éléments divins, plus c'est polythéiste, plus c'est facile. Mieux ça marche.
Et c'est pourquoi ce lien à faire entre la fin du paganisme dans l'Antiquité et ce qui se passe en Inde, même si les comparaisons, évidemment, ne sont pas viables au sens où ce sont des univers très différents, ça permet de réfléchir à la place des monothéismes. Parce que vous, Catherine Clément, on sent bien que dans cette démarche, autour de Païenne particulièrement, la réflexion, c'est autour du monothéisme. Je ne sais pas comment le dire simplement... que vous n'appréciez pas trop.
Non, je ne l'apprécie pas. C'est une litote de dire que je ne l'apprécie pas. Je le déteste. Je le trouve terriblement dangereux. Terriblement dangereux.
Parce que ça ne laisse pas de choix.
Ça entrave la liberté. C'est pas par hasard qu'il pousse des tas de petits trucs à côté du Dieu le Père. C'est pas un hasard, quand même. On met des choses qui sont plus familières, quand même, qui sont plus familières. Et si on ne l'aimait pas, qu'est-ce qui se passe ? Ben, relisez Michelet, la sorcière. Si on n'est que chrétien avec Dieu le Père et le Fils, et le pigeon, pardon, dans ce cas-là, il pousse des tas de petites fontaines avec des sources miraculeuses. Et de la sorcellerie.
Et des saints, etc.
Oui, ça nourrit l'imaginaire quand même. On ne vit pas sans imaginaire. Et c'est très important qu'il y ait des figures qui suscitent, du plaisir.
Dans Le Voyage de Théo Catherine Clément, un roman que vous avez publié il y a quelque temps maintenant.
Faire l'histoire avec par le roman.
Oui, mais je l'entends bien. C'est intéressant. Pourquoi cette démarche?
Parce que ça passe mieux. C'est plus facile à lire. Ça raconte des histoires. Ça empile des histoires. Et plus il y a d'histoires, mieux je me porte.
Et avec surtout, c'est une nouvelle façon d'attirer les gens vers l'histoire.
Oui.
Moi, je le vis ainsi. Et c'est vrai que Fou, folle d'histoire a été pensé comme cela. Comment on peut en arriver à l'histoire avant de lire les ouvrages universitaires et spécialisés? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, Catherine Clément, que Païenne est dédicacée à Hélène Héristophe.
Archéologue.
Donc, pour aller lire les travaux des archéologues, des historiennes, des historiens, bien souvent, on passe par le roman. Donc, c'est pour ça que vous avez fait ce choix de la littérature du roman.
Je trouve qu'elle porte mieux le message. Si j'ai un message qui est contre la violence, et contre le sang, et contre la guerre, et contre les bombes, enfin, et contre Trump, allons-y. Ce message passe en effet par le roman. Oui.
Et dans Le Voyage de Théo, Catherine Clément, c'est donc une exploration des différentes religions. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs l'argument de ce voyage, parce que c'est l'idée, et c'est toujours très important dans la littérature, l'idée première est très simple à comprendre, et après c'est l'aventure qui est magique.
L'idée première, c'est un garçon petit, il y a 12-13 ans, qui est atteint d'une maladie qu'on ne sait pas trouver. Ça m'est arrivé à moi, ça. Cette maladie-là. Donc tout le monde pense qu'il va mourir. C'est une maladie du sang, extrêmement dangereuse, et il lui reste un an à vivre. Et il demande à sa tante de l'emmener faire le tour du monde des religions. Et c'est ce qu'il fait. Il y a quand même des moments très difficiles. Par exemple, il est orthodoxe de religion, lui. Il est né dans une famille orthodoxe, mais personne ne peut aller à la Mecque. Ni vous, ni moi, ni personne, sauf si vous êtes musulman. Donc ça, c'était très compliqué à raconter. Mais il y a quand même 44, je lui ai fait toucher du doigt, 44 religions à ce petit bonhomme. Et évidemment, à la fin, il est sauvé.
Par quelle religion? Non, ne le dites pas.
Par aucune religion. Le roman.
Mais oui, je m'en doutais.
Par une fausse analyse de sang.
Dans cette aventure autour des religions, Catherine Clément, je l'ai dit, hein, vous êtes philosophe. Comment on en arrive à réfléchir autant aux religions? Il n'y a pas que ça dans votre œuvre, parce qu'il ne faudrait pas réduire votre œuvre à une exploration des religions. Il y a beaucoup d'autres aspects. Mais c'est vrai que les dieux, les déesses sont particulièrement présents. Qu'est-ce qu'il y a comme fascination? On a parlé de ces lectures d'enfance sur la mythologie. Ça n'explique pas tout, c'est déjà là. Mais
il y a l'opéra.
L'opéra?
L'opéra qui représente beaucoup les dieux. Qui représente les seigneurs et maîtres, et donc les dieux. Mais beaucoup, beaucoup de dieux. Et l'opéra est une part importante, en tout cas, de notre culture à nous. Je crois que j'ai dit l'essentiel, là. La musique, quand même, qui compte beaucoup.
Ouais. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression aussi, comme la recherche de l'explication à notre désir constant de trouver des réponses. Certaines vont vers la religion.
Alors ça, c'est pas moi.
Mais non, c'est pas vous, mais c'est...
Moi, je suis totalement athée.
Mais oui, mais c'est presque le désir en observant pourquoi l'on se dirige vers la religion pour comprendre. Quand on est athée, ou quand on est païenne, parce que là, je reprends le titre de votre roman, on se pose la question de se dire, mais comment font-ils? Que cherchent-ils avec la religion?
À se rassurer. À se rassurer, c'est la meilleure des assurances. Et Pascal le disait très bien. C'est très, très rassurant d'avoir des dieux. Mais il faut voir en Inde comment... contrairement à ce qu'on croit, ils ne passent pas leur temps en prière, les Indiens. Il y a un dieu de la maison, comme les dieux l'ont autrefois dans l'Antiquité. On lui fait on lui donne un morceau de sucre le matin, un peu comme un chien. On revient le prier le soir, point, c'est fini. Hein, puis il y a les grands pèlerinages, il y a les grandes fêtes. Mais ça ne tient pas tant de place que ça. Plutôt moins que la messe le dimanche et le mercredi des cendres et tout ça.
Avec beaucoup de variété dans les rites, dans les pratiques, dans la manière de se comporter avec ces dieux. Catherine Clément, vous nous l'avez dit, en Inde, il y a comme un choix possible de son dieu. On va dire que dans l'Antiquité aussi, selon sa cité, mais aussi selon son vécu, on peut être plus ou moins proche d'un dieu.
Il y a quand même un bon panthéon.
Il y a le choix.
Il y a le choix, voilà.
Le monothéisme, il n'y a pas le choix. Dans cette exploration du voyage de Théo,
alors 44... Alors si, le monothéisme chrétien, vous pouvez choisir mâle ou femelle.
Jésus ou la Vierge.
Voilà, exactement.
Ah oui, d'accord. Vous dites qu'il y a quand même un choix.
Mâle ou femelle.
Il y a un désir, et quand on regarde votre travail, d'essayer d'expliquer une histoire particulière genrée. Parce que dans les religions, on voit bien que la place des femmes est très différente. Alors l'apparition de la Vierge dans l'histoire du christianisme, c'est un moment important. Mais vous avez travaillé sur les sorcières, il y a le musée des sorcières, les dieux et les déesses. C'est quelque chose, ça, qui vous préoccupe, la place laissée aux femmes dans les différents panthéons, dans les différentes religions.
Alors la place laissée aux femmes en général, il y a du mieux cette année. L'inégalité de salaire est à 22%, elle a reculé d'un point.
C'est bien.
C'est bien, ça.
Oh, quelle bonne nouvelle.
Pour moi, c'est prioritaire. Voilà.
Ouais.
La question du féminisme, pour moi, se résume pour l'instant à ça.
Ouais. Avec tant et tant de variétés en fait, de situations. Et c'est en cela que les religions sont difficiles à être comparées. Et notamment dans ces religions que Théo, vous, avez pu explorer. Il y a des religions en Afrique. En Afrique particulièrement, vous avez exploré ce monde-là.
Oh ben bien sûr que oui.
Eh oui.
Bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, il y a énormément de dieux. Et là, en matière de sacrifice, mon Dieu, j'ai assisté à une cérémonie thérapeutique qui a duré 11 jours et 11 nuits. Et nous avons quand même sacrifié 2 taureaux, 2 boucs, 2 béliers, 2 coqs, ça fait beaucoup quand même. Hein.
C'était où ?
Qui était où ? Mais qui était dans l'endroit du sacrifice.
Non, mais dans quel pays ?
Au Sénégal.
C'était au Sénégal, cela ?
C'est au Sénégal. Au Sénégal, dans la ville de Dakar. Je dis bien, dans la ville de Dakar.
Alors moi, je vais quitter le Sénégal et je vous proposais d'aller plutôt du côté du Mali, en pays Dogon. Parce que Catherine Clément, vous avez joué un rôle important aussi. C'est pas moi qui vais en parler, hein. C'est Sékou Dolo, Sékou Ogobara Dolo, qui est le premier Dogon, qui a écrit sur les Dogons. Et c'est lui qui s'exprime.
C'est ainsi qu'un jour, par le travail toujours, j'ai rencontré Catherine Clément qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas sur ta société ?» J'ai dit, mais vous savez, j'ai essayé, mais on m'a tellement découragé, j'ai dit, j'ai laissé. Elle dit, mais c'est pas possible. Et c'est ainsi que je lui ai amené mon petite introduction que j'avais faite. Et en un clin d'œil, elle l'a lu, elle a dit, mais c'est super. Alors si tu veux bien le faire, moi je peux bien t'aider. Et voilà comment on s'est lancé. Et je lui ai bien dit que moi, mon ambition, ce n'était pas de m'enrichir. Mais que c'était de faire passer un message. Ce message, c'était que la plupart des touristes qui viennent en pays Dogon disent que oui, mais les hommes ne travaillent pas, les hommes sont toujours à la case, à palabre ou sous les arbres, alors que les femmes travaillent. Alors j'ai dit, ben justement, il faut savoir la répartition des activités de l'homme et de la femme pour savoir qui fait quoi.
Un chant dogon, celui de l'entrée des masques. Les dogons, donc, je dis Mali pour simplifier, hein, parce que c'est juste un repère avec un nom de pays actuel.
Je me demande comment ils vont en ce moment.
C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est aussi, Catherine Clément, vous qui avez traversé le monde, un aspect toujours intéressant de voir comment les pays se referment, comment notre monde s'est rétréci. Vous le vivez ainsi ?
Je vis surtout le danger sur ceux que je connais. Lui, par exemple, c'est Cuoco Bradolo. Il m'a fait une scène à tout casser lorsque mon compagnon est mort parce qu'on l'avait incinéré. Il m'a dit, mais tu n'as pas fait ça quand même, comment il va se retrouver au paradis ? Mais c'était une vraie scène. Hein. J'ai dit, si, on a fait ça, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est ce qu'il voulait, lui. Ah non, ça compte pas ce qu'il voulait. Bon, discussion à l'africaine. J'ai plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles des Maliens. De même, Eric Orsena ne peut pas aller à Bamako parce qu'il y a un contrat sur sa tête. Et je ne peux pas aller en Inde pour la même raison.
Oui, parce que l'Inde, vous avez bien rappelé, hein, l'évolution politique du pays.
Oui.
C'est un quart de l'humanité. Oui. L'Inde est traitée de manière très légère et lointaine, bien souvent, parce qu'il y a une méconnaissance de notre part de cette immensité. Cette immensité, vous l'avez explorée. Il y a cette mission diplomatique, cette présence-là. Mais vous avez vu toutes ces évolutions. Le Mali, par exemple, mais pour ne citer que ce pays.
J'ai connu le Mali dans la meilleure période, puisque c'était une démocratie parfaite. C'était après, entre deux coups d'État, disons, hein, entre deux juntes. Et ça, c'était très bien. Mais le problème du Mali, c'est pas le Mali qui pose problème, c'est la nation Touareg. C'est ça qui ne se dénoue pas.
Cette histoire-là, et on a entendu Sékou Ogbaradolo nous l'expliquer quand il disait « Mais c'est Catherine Clément qui m'a fait écrire, qui m'a demandé d'écrire. » C'est une histoire humaine, très incarnée.
Je voulais surtout qu'il touche les droits d'auteur. Il les a touchés. Parce que Dieudo qui a écrit par Marcel Griol dans des conditions similaires, hein, il a recueilli les propos. C'est Griol qui a touché les droits d'auteur, le Malien n'a rien reçu. Là, Sékou a touché ses droits d'auteur. Alors, acheminer des droits d'auteur au Mali, au pays d'Ogon, ça ne va pas de soi.
Hein. Non, c'est sûr. Mais c'est formidable d'ailleurs cette démarche. Et puis le fait qu'il y ait cette écriture, hein, d'où viens-tu d'Ogon, c'est ce qu'il a pu écrire. Et on parle des dieux, des déesses, mais tout cela, Catherine Clément, c'est pour évoquer ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les gens. On le voit bien, c'est l'existence d'individus pris dans des choses qui nous dépassent tellement. Et je pense à la religion, parce qu'elles sont insaisissables, elles sont dominantes. Comment on survit au milieu de tout ça ?
Oui, comment on se débrouille ?
Comment elle se débrouille, la pitié dans Païenne ? Elle est là, c'est son dernier oracle, c'est un monde qui s'effondre. Comment
faire ? Elle est meurtrière quand même, hein ?
Oui, c'est vrai.
Elle ne loue pas, l'officier romain. Ah, je voulais me farcir un officier romain, ça c'est vrai. J'en avais, si j'ose dire, me farcir au sens où je le tuer.
Hein. Oui.
Je suis très contente de la façon dont j'ai procédé.
Alors,
elle a procédé.
Donc voilà, elle. Mais il y a cette confusion qui est très belle dans ce que vous venez de dire. Parce que quelque part, c'est vous aussi la pitié. Et sans reprendre une analyse baudelairienne dont j'en suis bien incapable, l'artiste est là aussi pour annoncer les choses. Peut-être mieux que le géopolitologue. Mais il y a l'air du temps, une respiration qui transparaît dans la littérature. Catherine Clément, avec Païenne, on est dans un monde qui change, qui bascule. On l'a bien compris, le monothéisme, ce n'est pas votre truc. Pour vous, ça bascule dans quelque chose de moins bien. Vous avez l'impression qu'on vit...
Non, pas forcément.
Pas forcément ?
Non, pas forcément. Donc, que l'Empire disparaisse, moi, ça ne me gêne pas. J'aime pas trop les empires. Non, pas forcément ça. Non, ce qui disparaît, c'est la mythologie grecque.
Ouais.
C'est la culture grecque. Non, pas la nourriture grecque, pas les... Excusez-moi, j'ai...
Non, mais ce que vous dites là, ça nous permet directement d'aller sur l'Agora. Mais alors l'Agora, c'est le film d'Alejandro Amenábar en 2009. Nous ne sommes pas à Delphes avec Agora. Nous sommes malgré tout au 4e siècle avant Jésus-Christ.
À Alexandrie.
Nous sommes à Alexandrie.
Oreste, comment oses-tu t'ériger en juge de l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que vous avez, les chrétiens ? N'a-t-on plus le droit d'ouvrir la bouche dans la cité ? Si tu critiques la création, alors tu critiques notre Seigneur et tu nous insultes. Va donc t'établir dans le désert. Tu seras assuré d'éviter toute offense. Vous parlez pour ne rien dire, tous autant que vous êtes.
Donne-nous la première notion d'Euclide, Synésios.
Pourquoi la demandez-vous ?
Je ne demande que ta réponse.
Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois sont égales entre elles.
Bien. Ne m'êtes-vous pas tous deux comparables ?
Oui.
Et toi, Oreste ?
Certes.
Ce que je dis maintenant s'adresse à chacune des personnes de cette assemblée. Il y a plus d'affinités entre nous que de divergences. Quoi qu'il puisse advenir dans les rues, nous, nous sommes frères. Nous sommes frères. Alors dites-vous bien que les bagarres ne conviennent qu'aux esclaves et à Lali.
Le film Agora, avec ici cette idée qu'il y a plus d'affinité que de divergence entre les humains, et quelle que soit la religion, nous sommes frères, elle aurait pu dire nous sommes frères et sœurs, avec cette idée-là, Catherine Clément, c'est l'idée de l'union et de la division, c'est cette idée que le monothéisme appelle aussi à la division, parce que...
Il exclut.
Il exclut, par définition.
Il exclut tout ce qui n'est pas humble. Non, merci. Mon petit-fils, qui est professeur agrégé dans un lycée, a projeté Agora, ce soir d'Agora, et dit que ça donne des résultats formidables. Et en effet, c'est un bel exercice de réfléchir avec ce film. Alors, quand même, je ne me souviens plus si dans ce film, la mort de la philosophe et Hypatie est montrée. Car elle a été tuée à coups de coquilles d'huîtres par les moines coptes. Bon. Déchiquetée, on la voit dans l'Agora.
J'ai pas le souvenir, j'ai le souvenir du film.
Eh ben non, moi non plus.
Ouais, hein.
Déchiquetée à coups de coquilles d'huîtres, qui dit mieux?
C'est vrai que alors, cette évocation du IVe siècle, qu'on retrouve dans le film Agora d'Alejandro Amenábar, ou dans votre livre, Catherine Clément, Païenne, c'est un siècle peu connu. Et l'Antiquité est souvent une autre Antiquité, que ce soit l'Antiquité grecque ou romaine, qui nous conduit au 1er siècle, au 2e siècle, éventuellement au 3e. Et le 4e siècle, c'est un siècle délaissé. Vous l'avez perçu aussi au moment d'étudier cette période-là, parce que on le voit bien, et dans les remerciements, vous remerciez des gens et vous remerciez également des auteurs importants, parce que, alors de mémoire, on trouve Sophocle, Eschyle, Euripide, à qui vous avez emprunté les textes sacrés.
Tous les textes de prière sont d'eux.
Voilà, ça, mais ils ne sont pas du IVe siècle.
Non, ils sont pas. Ça. Ah, mais non, mais ils se disaient au IVe siècle.
Voilà.
Attendez, le concile de Nicée, c'est 325. On dit encore notre Père, que je sache. C'est même un point fixe. Donc, depuis le IVe siècle, ça tient le christianisme.
Mais c'était un plaisir d'étudier un siècle qui est moins étudié ou
non,
moins.
Non, je ne me suis pas du tout rendu compte de ça au début. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour où la pitié était expulsée. Après, moi je ne savais rien de tout ça. Après, je me suis dit, non, chien, c'est le IVe siècle, je ne connais rien au IVe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au IVe siècle? Et j'ai lu une bonne cinquantaine de livres avant de me lancer quand même.
Avec des personnages extraordinaires, parce que Julien l'Apostat, parce que tous ces gens-là...
Même Théodose.
Même Théodose, des empereurs romains, qui sont dans ce tiraillement que l'on perçoit entre le paganisme... finissant, mais ça personne ne le sait encore, on se rend compte qu'il est attaqué, et puis le christianisme qui prend de plus en plus de place.
Et ce que j'ai découvert, c'est que Constantin, on n'est pas sûr qu'il était chrétien, puisqu'il serait chrétien en rendant son dernier souffle. Alors ça fonctionne ou pas? Chrétien ou pas chrétien?
Au dernier moment.
Voilà.
Chrétien au dernier moment.
On voit aussi la construction cléricale qui se monte.
Quel regard vous portez sur la place des religions dans notre société? On voit qu'elles sont omniprésentes. C'est un sujet constant. La place des religions, du fait religieux. C'est quelque chose qui vous préoccupe?
Il me semble que c'est une des réponses apaisantes face à la bombe atomique. Je ne crois pas aux religions du tout. Mais je sais comment, quand j'étais petite, j'y ai cru. Parce que ça me protégeait. Donc, comme protection contre cette vilaine guerre qu'on veut nous fourrer dans les pattes, oui, les religions, ça peut protéger. Mais plus il y en a, plus il y a de Dieu, mieux c'est. Pas un seul, s'il vous plaît.
Pas un seul, s'il vous plaît, avec cette réflexion qu'on peut avoir sur notre temps. Catherine Clément, on a commencé cette émission en étant sur les bords de la Loire, 1939, voilà, cette jeunesse, où ces quelques années où vous êtes là-bas. Vous avez, dans votre vie, tant et tant eu l'occasion, et comme tant d'autres, de réfléchir à ce que vous avez vécu par votre famille, de voir aujourd'hui surgir des débats pour savoir si un industriel aux États-Unis a fait ou non un salut nazi. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? C'est juste le fait que l'on se pose la question si peut-être, pourquoi pas, ou non, cet homme-là, Elon Musk en l'occurrence, aurait fait un salut nazi. Ça vous terrifie ?
Alors, pas trop, parce qu'on a affaire à des cinglés quand même. Musk est un vrai cinglé. Et Trump, si vous réfléchissez deux minutes, Trump dont les paroles coulent de source dans sa bouche, sans s'arrêter, qui est dissociatif, qui est délirant, enfin, ce sont des cinglés. Donc, je les mets de côté. Mettons-les de côté, ce sont pas des personnages normaux. C'est pas les gens qu'on rencontre tous les jours. Quoi. Ce sont des fous. Il faudra s'en débarrasser, comme on fait avec les fous d'ailleurs. Hein. Il faut les soigner. Donc ça, pas trop. J'ai passé toute ma vie à me dire, est-ce que je verrai une troisième guerre mondiale ? Finalement, je crois que non. Parce que les fous, ça se traite.
C'est joliment dit avec cet espoir que vous portez là. Et c'est vrai que la notion de fou est une notion complexe, hein. On le sait bien. Parce
Oui. On vous lancez pas là-dedans.
Voilà, on met toutes les réserves possibles.
Mais on va dire, si on dit borderline, on dit délirant quand même, ça on le voit quand même. Il y a des délires dans ce que dit Trump. Il y a quand même des délires.
Moi, ce que je perçois, et Catherine Clément, je voudrais votre avis, c'est que ces personnages utilisent une argumentation qui n'est plus la nôtre. Vous avez cette formation de l'école française, de cette université. C'est l'argument qui fait le poids. Mais face à cet autre discours, à la négation de la science et de la réflexion, à la négation d'une recherche scientifique, les mots ne sont plus là. Il n'y a plus tellement de mots, il n'y a plus tellement d'arguments.
Non, mais les gros mots, ça peut marcher. Les trucs qui choquent. Toutes les impolitesses possibles. C'est une façon de crever le délire. Il y a une chose qu'il faut savoir avec ces gens-là. Il ne faut jamais être debout et jamais être couché avec ces gens-là.
C'est-à-dire
les gens comme Musk ou Trump. Ouais. Il faut être assis en face d'eux. Zelensky n'était pas assis en face, il était assis à côté. S'il avait été assis en face, il n'aurait pas subi les mêmes épreuves, je pense. On apprend des choses, vous savez, en Inde.
Parce que ça vous vient d'Inde, cette réflexion-là.
Ah oui, absolument.
C'est-à-dire que quand le président ukrainien Zelensky a été humilié par le président Trump à la Maison Blanche, vous pensez que le positionnement des gens a un effet sur les schémas de domination ?
Alors oui, c'est une des choses qui s'apprend en Inde, mais allez voir n'importe quel show de la Fashion Week et vous trouverez des choses du même genre. Hein. Bien sûr, il y a des savoirs posturaux. Et là, pauvre Zelensky, il s'est trouvé le juif en face de l'autre, Zelensky.
Dans l'histoire que nous évoquons, qui est la vôtre, hein, il y a, Catherine Clément, une existence qui a croisé tant et tant de préoccupations, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit le risque de guerre. À plusieurs moments, ça a été
une nouvelle guerre mondiale. Et la Shoah qui a touché ma famille.
Et la Shoah qui a touché votre famille, qui est vraiment quelque chose qui aujourd'hui nous fait réfléchir sans cesse. Et on pourrait ajouter la place du fait religieux. Le moment que nous vivons actuellement ressemble à un concentré, en fait, de toutes ces préoccupations qui traverse les siècles. On voit qu'il y a cette continuité de réflexion, de soucis. C'est ce qu'on retrouve un peu dans vos œuvres. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a vos mémoires, bien sûr. On l'a dit, il y a l'Allemand de ma mère qui nous évoque ici cette période très compliquée de la guerre. Et puis, il y a toutes ces évocations de la religion. En fait, c'est ça, c'est se concentrer comme un nœud impossible à dénouer et qui aujourd'hui semble particulièrement tendu.
Ah, je crois qu'il va se tendre encore. Je pense qu'il va se tendre encore, que ça va être plus difficile. Mais je ne suis pas trop pessimiste quand même.
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?
La folie, ça se voit.
C'est-à-dire que vous pensez que là, il est trop évident que la corde est tirée au maximum et que ça va trop loin ?
Je ne sens pas une proximité de guerre. Tout le monde en a peur. Même eux. Enfin, sauf le fou. Hein.
Mais cette guerre-là, dans Païenne, nous la voyons apparaître d'une autre manière, au sens où vous avez fait le choix de montrer ce moment du IVe siècle où un monde païen, polythéiste, est peu à peu remplacé par ce monde chrétien, mais d'un point de vue d'un lieu, nous sommes à Delphes, et d'un individu, c'est la pitié. C'est-à-dire que...
Et son prêtre.
Et son prêtre, Nikos. Il y a l'idée d'être au plus près des gens pour essayer de comprendre des phénomènes très vastes.
Oui, mais il y a aussi, dans le roman, à la fin, une sainte, Mélanie. Hein, la terrible Mélanie. Mais elle est sanctifiée, hein, elle est béatifiée. Elle s'appelle Sainte Mélanie de Jeanne. Celle qui a libéré, affranchi quelques-uns de ses esclaves, elle en a affranchi 8000, et qui a gardé ses eunuques, quand même. Mmh. Et qui est une terrifiante figure de pureté. Celle qui veut absolument se marier, mais dans la pureté. C'est terrible.
Catherine Clément.
Elle a existé et elle a fait ça.
Et vous nous avez dit que vous étiez athée, profondément athée. C'est ça qui explique votre grande connaissance des religions et surtout cet intérêt que vous portez aux religions.
Il y a des modèles à trouver de comportement dans la vie. Les dieux font des découvertes, donnent à découvrir des comportements. On peut s'en inspirer. Ouais. C'est rigolo, ça peut être rigolo. C'est justement ce que Christophe Honoré avait très bien vu dans son film Métamorphose. Le taureau ou la génisse, c'était un camion. Voilà. Et ça fonctionnait merveilleusement bien.
Oui, c'est ça. Hein. C'est ces liens à tirer toujours avec le présent, parce que quand on écrit à un moment donné, bien sûr, même si votre livre parle du 4e siècle, vous évoquez aujourd'hui.
Ce qui a à régler surtout, je ne parle pas de la guerre et des terrains guerriers, c'est le rapport entre les hommes et les animaux. On y vient, ça vient très doucement, ça arrive, mais ça, c'est un point absolument fondamental.
Oui, parce qu'il y a plein d'animaux.
Pardon ?
Il y a les animaux dans ce livre, nous sommes à Delphes.
Oui, oui, absolument. La présence des animaux est très très importante. Et ils ne sont plus sacrifiés, justement.
Oui, ils ne sont plus sacrifiés.
Et il y a ce que j'ai découvert avec beaucoup d'amusement, que le cadeau le plus précieux qu'on puisse faire dans l'Antiquité à quelqu'un, c'est un chat. À cause des souris, tout simplement.
Tout simplement.
Et je ne m'imaginais pas une chose aussi simplette et magnifique en même temps.
Et Catherine Clément, pour terminer, quand même, c'est un monde absolument de paradoxe, ce monde païen. Le choix du titre, c'est un peu... une provocation. En fait, ça fait partie aussi de ce grand jeu. S'amuser aussi à provoquer pour faire réfléchir.
Provoquer, non. Faire réfléchir, oui. Amuser, en tout cas.
Ben, c'est en tout cas ce que vous réussissez à faire. Le plaisir de la lecture dans Païenne, publié au Seuil, et puis celui de la réflexion aussi. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup.
On termine cette évocation avec, évidemment, des métamorphoses et toujours celle de Christophe Honoré.
Je suis Bacchus, fils de Jupiter. Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Ma mère a eu une histoire avec Jupiter. Elle n'a pas eu ta chance, elle. Elle est morte, foudroyée. Ne crains rien, il va venir te chercher. Je sais même qu'il veut t'offrir une île grecque dont tu seras la reine.
J'ai pas du tout envie d'être la reine d'une île grecque.
Tu as tort. C'est notre mère à tous, la Grèce.
Et oui, notre mère à tous. Le cours de l'histoire sur France Culture est une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Lalou, Maëlle Vincent Randonnier, Maïwen Guizou et Chloé Rouillon. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.